dans le podcast L'Amoureuse, le podcast qui éveille les consciences. Je suis Stéphanie Solina, coach de vie holistique et spirituelle, et ma mission est de vous accompagner afin de révéler votre lumière intérieure pour vous diriger vers un mieux-être. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour aborder un sujet dont vous avez été nombreuses à me demander, car surtout, ça nous concerne tous. Et aujourd'hui, on s'attaque à un très gros sujet, un sujet qui peut parfois contenir beaucoup d'émotions réprimées, un sujet qui est souvent source d'insécurité, de doute, qui est celui de l'acceptation de soi. Et ce sujet, c'est ce qui me vaut littéralement d'être là assise devant ce micro à vous parler aujourd'hui, puisque sans ce sujet-là, eh bien il y a 6 ans, je n'aurais probablement pas ouvert mon compte et ma vie aurait probablement pris un autre tournant. C'est donc avec beaucoup d'émotion que je vais vous accompagner au mieux pour comprendre pourquoi c'est autant difficile de s'accepter pleinement et comment faire justement pour vous sentir mieux. Et ces dernières années, on parle quand même beaucoup de l'acceptation de soi, comme si c'était un dernier sujet à la mode sur lequel il fallait surfer. Mais en réalité, je pense qu'il est difficile de surfer sur ce sujet avec autant de légèreté, car vous allez comprendre au cours de ce podcast qu'il y a de nombreux thèmes qui peuvent venir entraver notre acceptation corporelle de nous-mêmes. Et en faisant quelques recherches sur ce sujet, afin de voir ce que Google pouvait me conseiller, eh bien dans les premières notes, je suis quand même tombée sur beaucoup de conseils un peu bateaux, mais rien qui pouvait vraiment m'aider à soulager cette fameuse souffrance « j'accepte pas mon corps ». Et pire, je suis même tombée sur ce conseil, alors là qui m'a littéralement achevée, je dois vous dire, c'était « bannir les miroirs ». Alors là, carrément, c'est littéralement dans le déni de soi. Et il y a déjà un premier point que je voulais aborder avec vous, c'est d'un point de vue spirituel. Quand nous incarnons sur Terre, on passe d'un tout où règne un amour indescriptible à une incarnation dans la matière. On est en fait coupé partiellement de cet amour, on se densifie et notre conscience se retrouve dans un corps sans avoir réellement de mode d'emploi. Excusez-moi, mais ça peut quand même être un petit peu violent. Sur Terre, on fait l'expérience de la matière. Et c'est en plus la définition même de notre espèce, parce qu'on est doté des 5 sens qui nous permettent de jouir des plaisirs justement de la matière. On expérimente les saveurs, les senteurs, le son, le toucher, la vue. On a donc déjà appris de cet enseignement de la matière. Et l'un des premiers points à prendre en compte dans l'acceptation de soi, c'est son processus d'incarnation. Faire l'expérience de la matière, c'est rendre service à notre âme. Parce que à travers ce processus-là, il y a de nombreux points qu'on va expérimenter, notamment les plaisirs, le lâcher-prise, l'acceptation, la tolérance, l'amour de soi et des autres, et j'en passe. Et il y a aussi un autre point à prendre en compte dans la manière dont comment on va se percevoir au niveau corporel, c'est l'environnement dans lequel on a grandi. Et pour cela, vous pouvez venir vous poser certaines questions. Quel était le regard que vos parents avaient sur leur corps? Quel était le regard qu'ils portaient sur le vôtre? Et est-ce que vous avez pu être confronté à certaines remarques envers votre corps? Et là, on va rentrer dans des questions plus larges, mais qui font partie de cette thématique. Donc, éventuellement, quel était le cadre alimentaire instauré à la maison? Est-ce qu'il y avait un certain contrôle constant des aliments que vous mangiez? Ou encore, quel était le cadre vestimentaire qu'on vous a instauré? Est-ce qu'il était plutôt strict, avec un refus de montrer certaines parties de votre corps, voire même votre peau? Ça, c'est des questions qui peuvent être honnêtement peut-être légères, mais qui ont tout autant leur importance et l'impact que vous pouvez avoir maintenant sur comment est-ce que vous percevez votre corps. L'environnement dans lequel nous grandissons, eh bien, nous conditionne littéralement dans notre façon de percevoir le monde. Par exemple, si on vous apprend depuis toute petite que le mauve c'est la couleur par excellence, que c'est la couleur qui vous rend magnifique, eh bien lorsque vous allez percevoir d'autres couleurs, celles-ci éventuellement vont pas forcément s'inscrire dans vos normes. Il y aura peut-être un rejet, du marron, du jaune. Donc potentiellement, ça sera difficilement acceptable d'en porter, d'en recevoir ou de le percevoir d'autres couleurs, à mis à part le mauve. Et là, vous devez très certainement vous dire « merci maman, merci papa, merci mamie, papy, tonton, tata ». Mais en réalité, c'est pas réellement de leur faute. Et je pense qu'il y a aussi une nécessité à accepter son passé, à accepter ce qu'on nous a légué comme héritage familial. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est pas réellement de leur faute et qu'ils sont tout aussi victimes que vous de cette histoire. Et probablement, ils en ont aussi souffert que vous, notamment au niveau de leur physique, à un moment donné de leur vie, par rapport à toutes les normes dans lesquelles ils pouvaient être entourés. Et j'ai même envie de vous dire, eh bien c'est peut-être même le cas actuellement. Vous connaissez peut-être probablement quelqu'un dans votre famille, même plus âgé, hein, qui a eu des difficultés à accepter son corps ou qui en a encore. Vous avez même pu connaître éventuellement quelqu'un, peut-être votre mère ou votre sœur, éventuellement, qui, à l'approche de l'été, était tout le temps en train de faire un régime, qui refusait éventuellement d'aller faire les magasins parce que c'est trop difficile pour cette personne d'accepter son reflet dans le miroir. Alors, je pense que vous avez compris, on est tous victimes inconsciemment des normes et des codes dans lesquels on évolue et dans lesquels on baigne tout au long de sa vie. Et ce que j'aimerais aussi vous faire comprendre, c'est que vous avez aussi entre vos mains, là actuellement, la clé de votre prison dans laquelle vous vous sentez enfermé mentalement. Parce que, si paradoxal que ça puisse paraître, ces normes, ça vous aide aussi, encore plus, un très bon entraînement pour venir travailler votre amour de vous-même et votre acceptation de vous-même. Et justement, on va découvrir à travers ce podcast comment. Et je sais pas vous, mais pour moi, ce qui a commencé à être une première source de stress, c'est pas nécessairement mes parents, cette première source de stress envers mon corps, mais c'est le médecin qui a commencé à me parler d'IMC. Vous savez, cette fameuse courbe où on essaye de vous faire rentrer absolument dans une case du normal. Concrètement, la première fois que le médecin m'a parlé de cette fameuse IMC en sortant du rendez-vous, eh bien, l'une des premières choses que j'ai pu ressentir, c'est « je suis pas normale ». Et en fait, j'avais vraiment cette sensation que mon corps n'était plus ce qu'il était, mais il était réduit à quelque chose qui devait être pour rentrer dans une courbe. Alors, je suis quand même consciente que c'est important de bien suivre le développement de l'enfant. Mais je trouve qu'il serait quand même préférable peut-être de revoir sur ce point de vue-là, sur ce système-là de santé, une approche peut-être un peu plus holistique, ou du moins des paroles qui sont un peu plus englobées, un peu plus bienveillantes quand on aborde le sujet de l'IMC face à l'enfant. Et donc, à la suite de ce fameux rendez-vous dans le cabinet de mon médecin, eh bien, ça a été l'un des premiers moments où j'ai commencé à diaboliser les aliments. Parce qu'en fait, à l'époque, mon véritable problème, c'était pas l'alimentation, mais c'était mes émotions. Et en fait, je me jetais sur la nourriture parce qu'à l'école, ça se passait mal. Et le fait que je rentre pas dans cette fameuse IMC, la cause originelle, c'était loin d'être l'alimentation, mais vraiment mes émotions. Et bien évidemment, ça c'est mon exemple, ça reste un exemple parmi tant d'autres. Mais là, par rapport à ce type d'expérience, eh bien on peut voir comment les premières interdictions et diabolisations que l'on peut faire et que ça peut engendrer face à l'alimentation et potentiellement aussi les sentiments de gêne et de culpabilité qu'on peut avoir face à son corps. Et on peut même être dans la honte et le dégoût et le rejet de son corps, littéralement. Et comme je vous le disais, l'environnement dans lequel on grandit nous conditionne littéralement pour plus tard. Alors, ensuite, outre éventuellement le schéma familial, médical, mais pour moi, il y avait aussi l'école. Je sais pas vous, mais l'école, c'est un très gros chapitre de ma vie. C'est là où le jugement était le plus présent. Mais c'est surtout là où on peut voir à quel point on est conditionné. Tous les enfants sont conditionnés avec des normes. Parce que littéralement, avec mon 42 au collège, clairement, je faisais pas partie du groupe des populaires. J'étais toujours la dernière choisie en sport et souvent la première critiquée. T'es grosse? T'as un gros cul? Mais t'es moche? Oh, t'as du gras là! Et franchement, j'en passe. Mais pendant des années, ces remarques, ça m'a conditionnée eh bien, à ne pas accepter mon corps, à ne pas l'aimer et à ne trouver aucune beauté chez moi parce qu'on m'a toujours appris que le mauve, cette fameuse couleur mauve, eh bien c'est beau et que le reste, ça rentre pas dans les normes. Pour prendre un petit peu exemple avec ce que je vous exposais plus haut. Donc ça soulève déjà une des premières thématiques face à l'acceptation de son corps, c'est que les premières années de notre vie eh bien, sont conditionnées dans la façon dont nous allons percevoir notre corps par la suite. Mais ça ne s'arrête pas que là, parce que ça va aussi conditionner notre propre définition de la beauté, de l'acceptable ou du non acceptable. Et il y a un autre point de vue que j'aimerais aborder aussi avec vous, c'est d'un point de vue des religions. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça fait là? Si vous saviez à quel point dans l'inconscient collectif, on a beaucoup été conditionné par des siècles et des siècles avec la religion, vous seriez assez surpris. Et oui, notamment au niveau du corporel également. Parce que dans certaines religions, ce qui était notamment très présente, c'est le christianisme en France, eh bien ça a vraiment eu un impact sur la vision de notre corps. Parce qu'on a beaucoup rattaché le corps dans certaines religions à quelque chose qui était l'objet du mal. Ce corps qui était de matière, mais qui n'était pas en réalité la représentation du Saint-Esprit dans sa pureté même, puisqu'on n'était pas dans la conscience. Le corps, il a beaucoup été rattaché à quelque chose de diabolique, notamment par rapport avec les pulsions alimentaires, sexuelles éventuellement que l'on pouvait avoir, mais c'est aussi un corps qui expulse des excréments. Donc par définition même, c'est quelque chose de sale, du sale. Le corps, il a beaucoup été aussi ramené comme un lieu de tentation, de pulsion, de souffrance. Et en fait, pendant des siècles, on a été éduqué avec cette croyance que le corps est quelque chose qu'il faut cacher, dominer, domestiquer, contrôler, et qu'on doit contrôler ses excès, entre guillemets bien évidemment. Donc on a beaucoup été enroulé dans cette croyance d'être contre son corps, lui qui est la totale source de souffrance de notre être. Donc je sais pas si vous imaginez, mais en fait on passe toute une incarnation littéralement à rejeter cette expérience de la matière. Si on s'incarne dans un corps, c'est qu'il y a des leçons que nous devons apprendre, c'est qu'on a un enseignement à retenir. Mais par cette vision-là, du fait qu'on rejette la matière, eh bien on se coupe de la possibilité de pouvoir apprendre sur soi. Et c'est notamment aussi pour ça que ça a causé beaucoup de souffrance dans le plaisir, notamment au niveau du mutisme, même du plaisir féminin. Parce que ça fait pas si longtemps que ça finalement qu'on commence à parler du plaisir féminin, ça se rattache à aller quelques années, 30 ans maximum, et encore. Pendant des siècles, on a eu cette vision que la femme n'était faite que pour procréer et rien d'autre. Et je pense que vous commencez justement à comprendre pourquoi l'acceptation de soi, ça ne se règle pas en 10 conseils pour s'accepter. Un peu à l'image de certains articles qu'on peut retrouver sur Google assez bateau. Excusez-moi, j'en rigole encore, mais bannir le miroir, il n'y a rien de pire pour s'accepter soi-même. Car concrètement, c'est pas en rejetant le reflet que nous avons dans le miroir, qu'on commencera à s'accepter. C'est un déni littéral de ce que l'on est et c'est avoir une illusion sur ce que nous sommes. Ni votre corps, ni votre âme ne méritent que vous soyez dans le rejet et dans le déni de celui-ci. Parce qu'il mérite en réalité que votre beauté telle que vous êtes soit révélée au monde. C'est ça que vous méritez, pas l'inverse. Et pas de vous laisser conditionner par des normes de société. Vous êtes aimé tel que vous êtes et pour ce que vous êtes, pas pour des normes. C'est là la grande différence. Et maintenant, j'aimerais quand même encore vous faire entendre qu'il reste de la magie dans ce monde, puisque l'âme a toujours la possibilité d'agir. Il y a certaines lois de l'univers que l'on ne pourra jamais contrer, notamment la loi du libre arbitre. Et nous possédons quelque chose d'absolument incroyable qui nous redonne la toute-puissance. C'est la notion de choix. Nous pouvons choisir de modifier notre quotidien, notre environnement et nos croyances. Pas sans difficulté, mais c'est possible. Et pour cela, ça demande de désapprendre pour réapprendre. Ça demande de totalement se défaire de l'unique vision que l'on a de la beauté, par exemple, qui n'est pas uniquement définie que par du mauve, mais bien par toute la palette de nuances de couleurs que la vie peut nous proposer. Et d'ores et déjà, la première chose que je vous invite à faire, c'est à vous poser cette question, quelle est ma propre définition de la beauté ? Parce que dans les réponses que vous pouvez éventuellement amener, vous allez peut-être vous rendre compte que vous êtes conditionné. Donc, une fois que vous avez répondu à cette question, eh bien, vous allez peut-être pouvoir identifier, ça peut prendre un petit peu de temps, hein, mais vous allez pouvoir vous demander en quoi votre définition que vous avez de la beauté vous limite dans l'acceptation de votre corps. Quels sont les critères que vous avez bien ancrés qui peut être un frein littéralement pour vous-même ? Il n'existe pas de beauté absolue. Parce que la plus grande des beautés, c'est comment nous choisissons de nous exposer. Et c'est ça notre plus grande force. Et comme je vous le disais un peu plus auparavant, le plus important, c'est de désapprendre. Alors vous pouvez aussi vous demander au quotidien, eh bien dans quelle référence de beauté vous baignez. Parce que chaque jour, littéralement, on s'afflige un bourrage de crâne d'idéal de beauté. Oui, oui, je parle bien des réseaux sociaux en parlant de bourrage de crâne. Et ce qui est très paradoxal, c'est que on observe au fur et à mesure de l'évolution, un petit peu des années, c'est qu'il y a un certain clivage qui se crée. Parce que d'un côté, on parle beaucoup de body positive, d'acceptation de soi, mais pas plus tard que ces dernières années, on a aussi vu apparaître des phénomènes de post-bad sur Instagram. Et clairement, ces phénomènes de post-bad, ce sont juste des filles qui correspondent totalement aux critères de beauté vénérés du moment, un peu à l'image éventuellement de Kim Kardashian. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'aller dans vos recherches Instagram, de scroller et de voir des filles qui se ressemblent toutes, qui ont tous une particularité commune, c'est de ressembler à l'idéal de d'un visage type Kim Kardashian ou d'un corps à ce niveau-là. Enfin, c'est totalement insensé. Et je sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, à travers ça, à travers ce phénomène-là, on cherche à correspondre à l'identité de quelqu'un d'autre. Mais ce qui est littéralement impossible. Oui, bon, mis à part avec la chirurgie esthétique, mais la chirurgie esthétique ne va pas vous apporter l'amour, la confiance et l'acceptation de vous-même. Aucun chirurgien sur Terre peut le faire. Alors attention, je ne dis pas que je suis contre la chirurgie esthétique. Simplement, je pense qu'il est aussi vital qu'il y ait une vision juste des choses et éventuellement d'enlever cette illusion qu'après une opération, on sera à 100% au mieux de nous-mêmes, on aura totalement confiance en nous, on se acceptera totalement. Il restera toujours des sujets à travailler, donc je pense qu'il est déjà essentiel de commencer à faire ce travail dès maintenant. Et donc pour en revenir à ce fameux bourrage de crâne avec les réseaux sociaux, ce que je vais vous inviter à faire, c'est aller regarder dans vos abonnements et à vous demander est-ce que cette personne m'apporte du bien ou peut potentiellement mettre en danger ma santé mentale. Et si c'est le cas, de vous désabonner. Il est vraiment essentiel que vos réseaux sociaux soient un peu plus à l'image de la réalité. Et personnellement, c'est ce que j'ai fait il y a 2 ans. J'ai fait un énorme tri dans mes réseaux sociaux. J'ai commencé déjà par supprimer Snapchat parce qu'il y avait beaucoup trop de filtres. Je me suis aussi désabonnée de tous les comptes fitness, car même si sur l'instant ça pouvait me motiver, eh bien honnêtement, ça pouvait me donner l'impression que j'étais une merde, non pas parce que j'étais pas capable de réaliser certains entraînements sportifs, juste que par l'apparence physique qui est prônée dans cette industrie, me renvoyait à mon image, à moi, où j'avais vraiment cette sensation de pas rentrer dans la norme. Alors que voilà, je m'imposais littéralement la norme d'une industrie de fitness, mais qui n'était pas celle à laquelle j'avais, ou j'aspirais du moins, à correspondre parce que ça m'apportait pas du bonheur, littéralement. Donc j'ai tout supprimé, j'ai commencé à me référer qu'à mon image et ça m'a permis d'être littéralement beaucoup plus à l'écoute de celui-ci, de remarquer aussi un petit peu plus sa nature cyclique, la nature cyclique de mon corps, de constater que selon mon cycle menstruel ou bien les saisons ou les cycles de la vie, eh bien, mon corps changeait et s'adaptait, se modifiait, qu'en fait mon corps vivait. Et grâce justement à cette démarche, eh bien ça m'a permis d'intégrer, et là je vais le mettre au global, vous n'êtes pas un corps figé, mais bien un corps en mouvement. Et accepter que votre corps est en mouvement, eh bien c'est l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez vous faire, notamment au niveau du lâcher prise sur celui-ci, parce qu'en fait vous intégrez que c'est la nature des choses, l'impermanence des choses, que vous n'êtes pas une image. Et donc ça vous permet d'être beaucoup plus relâché dès qu'il y a potentiellement un mouvement avec votre corps. Et accepter ça, eh bien ça permet aussi quelque chose d'assez indispensable, c'est de placer la conscience, en fait, de venir replacer la conscience dans son corps. Et de comprendre ce que potentiellement il peut essayer de vous dire quand vous n'arrivez pas à le comprendre avec votre tête. Votre corps, en réalité, c'est pas une source de souffrance, mais c'est plutôt un messager qui essaye de vous informer de ce qu'il est difficile pour vous de voir ou de percevoir avec votre tête. Et là, je parle pour les mots psychosomatiques. Votre corps, il se nettoie, il se nourrit, il s'auto-guérit, mais pour cela, il doit passer par des cycles. Donc tout comme éventuellement votre âme, eh bien, essaye d'être en harmonie, eh bien, elle va se manifester par des crises d'émergence de la conscience, donc potentiellement par des émotions, par des états d'âme. Sauf que les émotions, ça se trouve pas forcément que dans le cerveau. Je veux dire, quand un chirurgien il opère, il va pas trouver les pensées et les émotions. Alors où est-ce qu'elles sont les émotions? Eh bien, on a un corps émotionnel qui ne s'arrête pas qu'à son autour de son cerveau, hein, mais dans tout notre corps. Donc c'est pour ça aussi que ça peut passer par des cycles également. Parce que penser que notre corps et notre tête sont dissociables, honnêtement, c'est un leurre clairement. Votre corps, il se nettoie, il envoie des informations à votre esprit. Donc parfois, on peut avoir éventuellement un brouillard mental, manquer de discernement, ou alors votre esprit essaye tant de bien que mal de vivre ses émotions, mais parfois il ne sait pas comment les gérer, alors eh bien c'est votre corps qui prend le relais et qui accepte gracieusement de faire ce travail-là. Donc à l'image des maux de gorge, une perte de vitalité, toutes ces choses-là. En fait, c'est indissociable. Le corps, l'âme et l'esprit sont en reliance permanente. Un autre point aussi que je voulais aborder avec vous, c'est qu'on est aussi nombreuses à vivre avec cette illusion que quand je serai comme ça, je serai heureuse. Mais c'est vivre dans une totale illusion. Qui vous dit qu'une fois que vous avez gravi la montagne, ça sera mieux de l'autre côté ? Ou que la vue sera magnifique au sommet ? Ce que je veux dire par là, c'est que se fixer une image figée de son corps avec lequel on pense que l'on sera bien, ça n'a pas de sens. Déjà parce que ça demande d'être dans un contrôle permanent pour garder cette image figée, c'est potentiellement ne pas s'autoriser à faire un écart, ou du moins ça signifie être dans un contrôle absolu de son alimentation, c'est maintenir un certain nombre de séances par semaine pour essayer de garder le cap. En fait, ça signifie potentiellement de ne pas écouter ses besoins au niveau de son corps. Ce que je peux vous dire, c'est que le moment où j'ai accepté le plus mon corps, où je me suis sentie le plus en harmonie avec lui-même, c'est quand j'ai lâché prise. C'est quand j'ai arrêté d'être dans un contrôle extrême et quand j'ai redonné un certain pouvoir à mon corps et aussi à ma confiance. Vu que j'étais totalement occupée à être dans un contrôle permanent, mais j'avais pas le temps de me laisser expérimenter la vie, de découvrir de nouvelles expériences qui pourraient me faire grandir et potentiellement m'accepter encore plus et développer ma confiance. Maintenant que je vous ai dit tout ça, vous allez me dire, mais est-ce que du coup ça signifie qu'il faut rien faire ? Alors ma réponse, ça sera que en réalité, il est nécessaire de ne pas être dans l'illusion, de ne pas vivre dans l'illusion. Donc la première des choses sur lesquelles vous pouvez vous baser comme question, c'est comment est-ce que j'habite mon corps ? Comment est-ce que je me sens dans mon corps ? C'est-à-dire peut-être potentiellement, si vous vous déplacez et que vous êtes vite essoufflé, si vous sentez que vos déplacements sont lents, toutes ces choses-là que vous avez potentiellement des problèmes de santé qui peuvent être induits peut-être par une mauvaise qualité de vie, par une mauvaise hygiène de vie, par une mauvaise alimentation ou par potentiellement, éventuellement un poids qui peut venir altérer votre santé, là il est nécessaire de faire quelque chose parce que ça fait partie aussi de prendre soin de soi dans tous les sens du terme. Et ça fait partie de l'amour pour soi. Parce que je me respecte, parce que je m'aime, je vais m'amener au meilleur de ma santé. Que ça soit la santé mentale ou éventuellement la santé physique. Et on peut voir dans certains mouvements du body positif de ne rien faire, de te totalement laisser aller avec ta taille 46. C'est ok si tu l'acceptes totalement et que tu te sens totalement bien quand tu te déplaces dans tes pantalons. Que... Il n'y a pas de problème, mais je pense aussi qu'on n'est pas obligé de subir son corps. Et ça, c'est... Un autre sujet, c'est que si vous êtes vraiment en souffrance avec votre corps parce que pour vous c'est difficile de vous déplacer, que vous êtes essoufflé, tout pour toutes ces raisons-là, je pense qu'il est aussi nécessaire d'être dans une démarche de changement. Mais en fait, d'être dans une démarche de changement en conscience parce que vous savez pourquoi vous le faites et non pas pour correspondre à une norme. C'est là la différence en fait. Voilà ce que je voulais vraiment vous transmettre à travers ce podcast. Donc si je résume un peu les points que j'évoquais dans ce podcast concernant l'acceptation de son corps. Premièrement, ça va être de redéfinir sa vision que nous avons de la beauté, d'identifier les croyances limitantes, les croyances physiques qui peuvent nous limiter dans notre acceptation de notre corps. Faire attention dans l'environnement dans lequel on évolue, on se désabonne de tous les comptes qui peuvent influencer notre santé mentale du mauvais côté du terme. On intègre que notre corps n'est pas une image figée, mais bel et bien un corps en mouvement, et que c'est le fondement de la nature même. Et on ne vit pas dans une illusion, mais bel et bien dans sa réalité, et on intègre que s'il y a un changement potentiel à effectuer, on le fait en conscience envers son corps. J'espère que ce podcast vous aura aidé à comprendre comment accepter un peu plus votre corps. Je vous invite à le partager autour de vous et à l'envoyer à une personne que ça pourra aider. Pour rejoindre ce mouvement de femmes qui souhaitent révéler leur lumière intérieure, vous pouvez me retrouver sous mon Instagram sous le nom de Stéphanie Solina. Le lien est dans la barre d'infos. Et si vous avez également envie que je vous accompagne en coaching de vie holistique transformatif, n'hésitez pas à me contacter sur mon site internet. Et afin qu'ensemble on fasse grandir cette chaîne de podcast L'âme heureuse, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et une note. Alors ça prend quelques secondes pour vous, mais c'est vraiment d'une aide précieuse. Vous pouvez également vous abonner afin d'être prévenu dès qu'il y aura un nouvel épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain podcast. En attendant, prenez soin de vous.